France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et si on croyait en l'avenir, aucun de nos deux invités ne sait ce qui va se passer ces prochains mois, mais c'est bien de cette saison qui démarre, bon an, mal an, que nous allons parler jusqu'à 9h. Bonjour Michel Franck.
Bonjour.
Directeur général du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Bonjour Thierry Esquèche.
Bonjour.
Compositeur, organiste, improvisateur, prof, professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Si vous êtes tous les deux ensemble ce matin, c'est que l'un des moments forts de cette saison au Théâtre des Champs-Élysées, c'est votre nouvel opéra, Thierry Esquèche. Ce sera en mars, et il s'appelle Point d'orgue, on va en parler tout à l'heure. D'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous l'un et l'autre ce matin, vous comme directeur, vous comme artiste, alors que l'on fait face à une deuxième vague du virus, que le chef de l'État va s'exprimer ce soir, et que même depuis lundi, dans ce studio, nous devons être masqués, Michel Franck.
L'état d'esprit, je pense qu'on est tous dans l'expectative, on est patient, et puis on prend les nouvelles qui se succèdent et qui sont de moins en moins positives, si je puis dire, avec philosophie. Pour le moment, on a pu rouvrir le théâtre en septembre avec une production du Messie mis en scène par Bob Wilson, ensuite le Ballet Royal de la Nuit, on est en train de répéter Salomé dans une mise en scène de Christophe Warlikowski, et puis ensuite vient effectivement La Voix humaine et le nouvel opéra de Thierry. On y croit, le public est au rendez-vous, les artistes sont là, on met en place toutes les protections sanitaires, on y croit, mais on attend les nouvelles du président ce soir et voir quelle sera la suite des événements, on ne sait pas.
Thierry Esquèche, comme compositeur, comme musicien aussi, organiste et pianiste, vous avez fait face à beaucoup d'annulations, de reports ces derniers mois?
Oui, pour la vie d'un compositeur organiste, un compositeur instrumentiste, c'est un peu schizophrénique parce que le compositeur, il est plutôt d'une certaine manière ravi. Il a même écrit une partie de l'opéra dans un confinement. Et comme on voit à long terme, à la limite, voilà, la pièce sera là, on compose pour le long terme, on compose pour le court terme. Donc voilà, si jamais c'était déplacé, ce serait déplacé. Par contre, l'organiste, oui, le musicien, il fait un test tous les 4 jours et pour essayer de... Moi, je veux vraiment montrer qu'on peut continuer. Donc je vais en Slovénie, je vais un peu partout, en Allemagne, j'en reviens. Voilà, et j'essaie de vivre avec, et je pense, voilà, j'essaie de me propulser hors des frontières, ce qui est assez difficile. Mais effectivement, comme tout le monde, j'ai eu des annulations, 30 ou 40 annulations, c'est sûr, oui.
L'opéra, vous en aviez écrit un pour l'opéra de Lyon qui est annulé, reporté?
Il a pas été annulé, mais évidemment, il est reporté. Et
comme il existe.
Il existe, voilà, il sera fait, et je suis content, il se fera l'année prochaine à l'opéra de Lyon, il est reprogrammé sans problème. Effectivement, on sait avec les délais d'opéra, ça peut pas se faire dans l'année qui vient, donc ça sera l'année prochaine.
Il est, espérons-le, de bon augure. Voici le chant des lendemains de Thierry Esquèche avec Patricia Petitbon, Suzanne Manoff au piano, David Venitucci à l'accordéon et la voix d'Olivier Pic qui signe aussi le texte.
Derrière cette porte, qui sait ce que le vent dans son désir apporte?
La prévue, c'est la fête irrésistible et gaie.
Possible est un dieu qui danse et qui bégaye,
qui danse et qui bégaye,
qui danse et qui bégaye.
C'est ce qui vient, ce n'est pas ce qui passe. Le temps, c'est ce qui vient, ce n'est pas ce qui passe. C'est ce qui vient. Le temps.
Prière.
C'est
à toi de venir me donner le vent.
Le chant des lendemains, musique de Thierry Esquèche avec la voix de Patricia Petitbon, celle d'Olivier Pie aussi qui écrit ses paroles. Qui sait ce qui m'attend derrière cette porte? Suzanne Manoff au piano et David Venitucci à l'accordéon. L'un des styles du protéiforme, Thierry Esquèche. On est presque ici dans la comédie musicale, le cabaret. Qu'un mot de cette pièce?
Oui, c'était une demande de Patricia qui nous unit parce qu'elle est très proche à la fois d'Olivier Pie, de moi aussi. D'ailleurs, c'est aussi ce projet qu'on a avec Michel Franck. Et donc, il dit, voilà, écris-moi une chanson pour terminer ce disque. Et avec Olivier qui a fait un texte très vite, moi aussi, une chanson. Et puis, on s'est mis à trois et puis on a fait cette espèce de chanson qui, effectivement, référence à la musique du cabaret, Broadway, tout ce qu'on veut. Revu un peu par le côté un peu français par moment, un peu.
Thierry Esquèche à la composition, Olivier Pie au livret et à la mise en scène, et sur scène Patricia Petitbon, mais aussi Cyril Dubois et Jean-Sébastien Bou. C'est Point d'orgue en mars au Théâtre des Champs-Élysées, couplé avec la voix humaine de Francis Poulenc, Michel Franck. Pourquoi avoir passé commande à Thierry Esquèche?
D'abord, la voix humaine, quand on la représente de façon scénique, nécessite qu'on la couple avec une autre œuvre. Et j'avais effectivement envie de passer une commande. On l'avait fait il y a quelques années à Dai Fujikura pour Solaris. Voilà, je trouve que la création est importante. Il faut jamais oublier que le Théâtre des Champs-Élysées est né avec le Sacre du Printemps. Donc, c'est dans l'ADN du théâtre de faire de la création. Et puis, j'admire énormément le travail de Thierry. Je trouve que Claude était un opéra formidable.
Premier opéra en 2013 à Lyon sur un livret de Robert Badinter.
Absolument, merci du sous-titre. Et du coup, en parlant avec Olivier, qui a tout de suite eu envie de faire le livret, on s'est dit qu'on allait faire une œuvre qui sera liée d'une certaine façon à voix humaine, ce qui lui donnera une forme d'originalité. D'ailleurs, Patricia Petitbon, qui chantera la voix humaine, interviendra aussi dans Point d'orgue aux côtés de Jean-Sébastien et Cyril, comme vous l'avez dit. Et voilà, on a reçu la partition, en tout cas le piano il y a 15 jours, Thierry, et on a hâte de l'entendre, on va se faire une lecture, on a hâte de l'entendre, en tout cas les artistes sont très impatients.
Donc Thierry Esquèche, c'est achevé, c'est rare qu'un opéra soit achevé 6 mois avant sa création.
Ah bon, on n'est pas toujours en retard, hein. Puis attendez, je n'ai pas effectivement encore terminé l'orchestration, non, c'est encore possible, hein, je rassure Michel Franck. Non, pour moi c'était effectivement, je remercie vraiment Michel d'avoir pensé à moi pour cette commande, parce que c'est un beau projet, c'est une sorte d'extension. On prend cette femme où elle est complètement désœuvrée à la fin de l'œuvre de Francis Poulenc, qu'elle est comme en pleine dépression, elle vient de se faire quitter. Et Olivier a imaginé effectivement... Olivier Pie a imaginé cette suite où on la retrouve, mais cette fois-ci elle n'est pas au centre, c'est lui, le mari, qui est parti, volage, qui est au centre, mais qui est cette fois-ci, qui va être d'une certaine manière, il vit avec quelqu'un, un autre ami, l'autre... Olivier a rajouté des personnages, en fait. Il a rajouté des personnages de l'autre. Et puis, il a fait revenir elle, qui essaie de le reprendre. Mais ce qui va être assez beau, je pense, j'espère, c'est que psychologiquement, cette fois-ci, c'est vraiment la destruction psychologique de lui. C'est lui, on l'aperçoit, il est dans sa chambre et on le voit s'effondrer psychologiquement. Et les deux autres vont essayer de le récupérer avant cet effondrement, en fait. Venir le chercher, le faire sortir de cette espèce de monde avec des jeux, avec l'amour, avec plein de choses, des rêves. Et voilà, on verra s'ils vont y arriver ou pas. Mais c'est une aventure, en fait, voilà, c'est une aventure psychologique entre trois personnes.
La revanche de la femme délaissée ?
D'une certaine manière, c'est la revanche. Oui, elle, c'est pas du tout quelqu'un qui elle reste pas de la même façon. Et justement, c'est l'avantage, c'est qu'il lui a fait un personnage où elle trouve son accomplissement différemment et elle essaie de le faire partager à lui.
Et on fait confiance évidemment à l'intelligence théâtrale d'Olivier Py. L'œuvre pourra bien évidemment vivre sans la voix humaine. Quand elles sont juxtaposées, l'une fait sens par rapport à l'autre, mais point d'orgue pourra vivre sa vie sans Poulenc qui est la voix humaine.
Vous écrivez Thierry Escaich pour les chanteurs, pour Patricia Petitbon, pour Cyril Dubois, pour Jean-Sébastien Bou.
Dans ce cas précis, oui. Dans ce cas de cet opéra, quelquefois je suis plus, je veux faire pour un artiste, un violoniste, et je le fais. Vraiment, je me souviens, au Théâtre des Champs-Élysées, avoir reçu Cyril Dubois, j'ai écouté sa voix, je connais bien Patricia, mais je lui en parlais. Jean-Sébastien Bou, ben voilà, c'était l'héros de Claude Gueux, un opéra. Donc c'est des gens que je connais ou que j'ai réécouté. Et puis c'est aussi quand j'ai fait cette chanson, justement, c'est tout à l'heure, voilà, j'ai repris contact avec elle, on a retravaillé ensemble. Donc c'était important aussi, même psychologiquement, d'avoir un contact avec eux, parce qu'ils vont être vraiment, c'est une sorte de huis clos à trois. Et j'ai besoin aussi de leur force psychologique sur le plateau, ça va vraiment présenter, elle le sera, je pense.
Et il ne faut pas oublier, dans la boucle de la création, Jérémy Rohrer, voilà, qui avait dirigé Claude Gueux à l'Opéra de Lyon, et qui est le professeur, l'élève, pardon, de Thierry Escaich.
Et je sais qu'il sera impliqué, évidemment, pour plein de raisons, amicales aussi, mais aussi voilà, esthétiques et plein de choses dans la partition.
Michel Franck, Patricia Petitbon sera le mois prochain Salomé de Richard Strauss. C'est une prise de rôle importante
à sa demande,
pour elle. À sa demande.
À sa demande. Il y a 2-3 ans, elle m'a dit, tu sais, mon rêve, c'est de chanter Salomé. Et je l'ai regardée, j'ai dit, tu es sûre? Elle m'a dit, oui, je suis sûre. Il faut pas oublier qu'elle vient de la Reine de la Nuit, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, on a réfléchi ensemble à une production, et c'est cette coproduction avec l'Opéra de Munich et Christophe Warlikowski. Et on a commencé la répétition il y a 2 semaines maintenant, et elle va être absolument prodigieuse. Elle a cette étrangeté, elle a cette puissance vocale maintenant que requiert le rôle. Mais elle a ces couleurs qui lui sont si particulières et qui donnent une vraie étrangeté au personnage.
Elle se déroule comment, ces répétitions? Désolé d'y revenir, mais forcément, c'est là tout le temps, on fait des tests.
Artistiquement, elle se déroule très très bien. Après, sur le plan des précautions sanitaires, c'est contraignant. C'est-à-dire qu'on a mis en place, avec un laboratoire qui est très proche du théâtre, des systèmes de tests. Donc les artistes vont se faire tester aussi souvent qu'ils le veulent, mais en moyenne à peu près deux fois par semaine. Ils portent des masques dès qu'ils ne chantent pas. Tous les figurants, parce qu'il y a des figurants dans la production, eux restent masqués tout le temps. Quand on rentre dans le studio, soit on met des chaussures propres qu'on a apportées, soit on met des surchaussures pour éviter, si on doit dans la mise en scène, être au sol, de se contaminer. Donc on a énormément de précautions sanitaires. Et je pense que le fait de tester les gens 2 à 3 fois par semaine limite considérablement le risque.
Christophe Warlikowski doit adapter sa mise en scène, puisque c'est une reprise de Dresde.
De Munich.
De Munich.
De toute façon, Christophe, je vais le citer, ne fait jamais de copier-coller quand il fait une reprise. Il a donc le cadre de la mise en scène de Munich, mais il l'adapte forcément. Patricia Petitbon n'est pas Marlies Petersen, qui était formidable, mais la personnalité de chaque chanteur lui fait faire évoluer sa mise en scène. Et là, il y a beaucoup de nouveaux par rapport à Munich. Il y a Sophie Koch, il y a Gabor Bretz dans Yoko Adahan qui n'était pas à Munich. Hérode est le même, mais le Narabot n'est pas le même. Donc, la mise en scène ne sera pas la même. En tout cas, la direction d'acteur ne sera pas la même.
Et l'Orchestre National de France?
L'Orchestre National de France, bien sûr, dirigé par Henrik Nadinchy. L'orchestre, on jouera la partition réduite, écrite par Strauss, qui a fait 2 versions de Salomé. Partition réduite, en diminuant un petit peu le nombre de cordes. Et une partie de l'orchestre, d'ailleurs, ne sera pas dans la fosse pour respecter la distanciation. Une partie de l'orchestre sera au parterre, où on enlève 4 rangs, malheureusement.
Salomé, l'Orchestre National de France, le voici avec quelqu'un qui l'a longtemps dirigé. Il est mort il y a 30 ans, jour pour jour, Leonard Bernstein.
Thank you.
pour voir ce que Christophe Warlikowski a fait de cette danse des sept voiles. Il faut aller au Théâtre des Champs-Élysées du 14 au 24 novembre, voir Salomé de Richard Strauss ici. C'était l'Orchestre National de France, dirigé par Leonard Bernstein, Thierry Esquèche. Bernstein, un mot sur... c'est un compositeur, une figure musicale qui vous a influencé?
Oui, j'ai la chance de le rencontrer une fois. Je faisais un stage d'improvisation à Fontainebleau, il donnait des cours, et c'était peu de temps avant sa
conservatoire américain.
Conservatoire américain de Fontainebleau. Et en fait, on s'était retrouvés à ce moment-là, et il m'avait découvert, il ne me connaissait pas, moi je le connaissais, et je lui avais un peu montré ma musique, et donc c'était une rencontre fabuleuse. Et surtout, c'est évidemment, il est hyper inspirant pour quelqu'un comme moi, justement en protéiforme, quelqu'un qui passe comme ça du piano, qui est capable de jouer le concerto en sol de Ravel, de prendre la baguette après, d'aller finir une œuvre la nuit à l'hôtel et tout. Il y a un côté que j'ai toujours admiré, ce côté justement protéiforme, il sait mettre de la force dans tout ce qu'il a fait, et puis ne serait-ce que West Side Story, c'est même inspirant, c'est un autre type de musique que ce que je peux écrire, ce qu'on peut écrire, mais là ça a révolutionné une certaine forme de comédie musicale au XXe siècle.
West Side Story que vous avez joué, on l'entendra d'ailleurs à la fin de cette émission. Quelles sont les contraintes et les besoins dramaturgiques d'un opéra, d'une forme lyrique pour vous?
Il n'y a pas qu'un seul, mais c'est vrai qu'il y a une certaine manière, ça doit être une sorte de thriller. Alors là, il se trouve, dans cet opéra-là, ça devait plutôt être psychologique. Mais on a besoin quand même d'un nœud dramatique. On a besoin aussi du côté théâtral. Moi, j'aime bien qu'il se passe, par exemple, plusieurs choses en même temps. Qu'il y ait quand même c'est pas juste un récit, un opéra. J'ai besoin de théâtralité, j'ai besoin de jeux de rôle, j'ai besoin de ce genre de choses. Donc, il faut qu'il y ait une vie. Et je dois dire qu'avec Olivier Py, j'étais assez servi. Parce qu'il a ce sens, justement, de la théâtralité. J'avais lu, c'est Les Illusions Comiques, par exemple. Et je retrouve dans ce texte-là, joue-moi ces jeux de rôle, joue-moi le rôle de ta mère, joue-moi le rôle de la mort, des trucs. Et comme ça, ça me permet, en fait, de passer, ce que j'essayais de faire, d'ailleurs, dans cet opéra, plus que dans d'autres, peut-être de passer quelquefois du drame, évidemment, en dépressif, ou grotesque, un côté Ionesco par moment. Et donc, on peut passer comme ça. Je crois que c'est ce qu'il voulait, d'ailleurs, dans cette livre. Il voulait qu'on puisse passer du drame, quelquefois, au côté grotesque. Et je pense que, moi c'est ça, c'est qu'il y avoir un univers fort, une sorte de thriller psychologique, effectivement, qu'on sache qu'il doit y avoir un nœud dramatique à un moment. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse pour en chercher un livre d'opéra.
La voix humaine, quelle que soit sa forme, pour faire écho à Francis Poulenc, occupe une place prépondérante dans votre œuvre, Thierry Esquèche.
Oui, pas seulement au niveau opératique, effectivement, par le chœur, j'ai pas mal écrit pour chœur, pour voix soliste aussi. Mais je veux dire que depuis, j'étais assez loin de l'opéra avant que je fasse l'aventure avec Robert Banater, Claude Gueux. C'était un univers qui me parlait pas vraiment. En fait, c'était pas ma culture. Et j'ai découvert, et peut-être que j'ai plutôt une passion pour la littérature. Et c'est vrai que progressivement, en travaillant sur Claude et en travaillant sur le projet Chirine que j'ai fait à Lyon, et maintenant avec là, j'ai retrouvé l'amour que j'ai du texte, de la littérature. J'ai pu en faire quelque chose musicalement, et je pense que je continuerai maintenant.
Je vous propose qu'on écoute un extrait de Claude Gueux, c'était en 2013 à l'Opéra de Lyon, et les micros de France Musique étaient là.
Jusqu'à...
court extrait de Claude Gueux, de Thierry Esquèche, la maîtrise de l'Opéra de Lyon, l'orchestre de l'Opéra dirigé par Jérémy Rohrer, voilà. Avec Jean-Sébastien Bou. On retrouve donc cette famille d'artistes.
Oui, oui, parce que maintenant quand je vois dans la rue Jean-Sébastien Bou, c'est je vois Claude Gueux, voilà. Et lui aussi d'ailleurs, il me parle en Claude Gueux pratiquement.
Michel Franck, on parlait de cette annulation du deuxième opéra de Thierry Esquèche l'année dernière, report à l'Opéra de Lyon. Vous, ce qui a été reporté la saison dernière reviendra sans doute, je pense à Robert Desvreux qui a été vraiment au mois de mars quand tout s'est arrêté.
Je ne sais pas encore. Effectivement, c'était une grosse déception. Roberto Devereux, le couronnement de Poppée aussi. Roberto Devereux, c'est particulièrement compliqué parce que c'était une coproduction avec le Metropolitan Opera qui l'a au répertoire. Et puis, vous savez que dans l'opéra, on programme assez longtemps en avance. Donc, les opéras scéniques chez nous sont programmés jusqu'en 23-24. Donc, si c'est reprogrammé, c'est éventuellement en 24-25. Mais voilà, il n'y a pas de certitude en tout cas sur la reprogrammation des opéras.
Cette année, il y a plusieurs opéras mis en scène, comme chaque année au Théâtre des Champs-Élysées, des opéras en concert, et puis également des concerts, des grandes voix, des récitals. Beaucoup de jeunes solistes aussi, vous mettez l'accent sur les jeunes musiciens qui ont une carrière qui démarre franchement et que vous mettez en avant au Théâtre des Champs-Élysées.
J'essaye effectivement d'aider les jeunes dans lesquels je crois à se présenter sur cette grande scène parisienne. C'est important pour eux, c'est important aussi pour le public, et puis c'est important pour la relation qu'on noue avec l'artiste. Ça permet de créer un lien de fidélité. Je me souviens les premiers concerts avec Philippe Jaroussky, il y a plus de 20 ans ou 25 ans, quand il y avait quelques centaines de personnes seulement dans la salle. Donc les artistes, ou Alexandre Tarot, les artistes ont tous débuté un jour, et les aider à trouver un public à Paris est une des choses qui me passionne. Et ça permet aussi avec de jeunes artistes d'avoir aussi un public plus jeune, parce qu'ils communiquent de façon différente, maintenant évidemment beaucoup avec les réseaux sociaux, donc voilà, ça fait partie de nos missions, et d'élargir le public, et d'aider les jeunes artistes à se présenter sur scène.
Au Théâtre des Champs-Élysées se produisent aussi des artistes, des musiciens qui sont invités, accueillis par des producteurs privés. On en parlait il y a une heure ici même, les producteurs privés classiques ont écrit à la ministre, ils se sentent menacés de disparition, ils se disent inquiets, y compris pour les artistes. Michel Franck, vous les soutenez ?
Bien évidemment, je les soutiens. D'ailleurs, j'ai signé la lettre qui a été envoyée au ministère. Il faut soutenir le théâtre, le spectacle vivant. Le spectacle vivant est fondamental et rien ne le remplace. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons fait l'expérience pendant ces 3 mois de confinement du spectacle enregistré, du spectacle visuel. C'est pas la même chose, partager des émotions avec d'autres spectateurs, c'est fondamental. Et puis c'est fondamental aussi pour les artistes. On le voit bien dans un processus de répétition entre une pré-générale sans public et 2 jours après la générale avec du public. Le spectacle n'est pas le même, mais c'est pas les artistes qui ont changé, c'est tout simplement parce qu'il y a un public pour les entendre. Donc oui, il faut sauver le spectacle vivant, il faut sauver les producteurs privés, il faut sauver aussi et aider les théâtres privés dont nous faisons partie à ce jour.
Vous, sur le plan de la relance, vous savez...
Nous n'avons aucune information de savoir si nous allons être aidés, à quelle hauteur, est-ce que ça va être plafonné, pas plafonné, qui est éligible. À ce jour, nous n'avons aucune information.
Point d'orgue, couplé à la voix humaine de Francis Poulenc, c'est du 6 au 14 mars. Un clin d'œil aussi, peut-être, d'Olivier Py à votre instrument, Thierry Esquèche, vous avez le temps de continuer à jouer ?
Oui, j'ai besoin de ce contact avec le public, donc avec la scène aussi, que ce soit dans une salle ou dans une église, je ne pourrais pas m'arrêter, parce que c'est là que je teste certaines nouvelles idées en improvisant ou autre, j'ai besoin de ça, donc voilà, je compatis avec les artistes qui veulent être sur scène.
Et vous serez en concert vendredi à Saint-Étienne-du-Mont, puisqu'on célèbre les 1600 ans de Sainte-Geneviève avec l'ensemble utopique dirigé par Michel Boursier, Saint-Étienne-du-Mont, dont vous êtes l'un des deux titulaires.
Avec Vincent Varnier, qui a joué hier soir d'ailleurs, magnifiquement.
clin d'œil à Leonard Bernstein, disparu il y a 30 ans aujourd'hui, Somewhere, West Side Story, Romain Leleu à la trompette, Thierry Esquèche à l'orgue, et vous serez d'ailleurs tous les deux en concert le 3 novembre à Gastein, en Seine-et-Marne, dans le cadre des concerts de poche. Vous serez également, Thierry, le 24 octobre à Nantes, au lieu unique avec l'ensemble Utopique, et donc vendredi à Saint-Étienne-du-Mont, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, c'est en mars avec Point d'Orgue et La Voix Humaine, et puis c'est le mois prochain, Salomé de Richard Strauss. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci Jean-Baptiste.
Dans ce studio, demain notre invité sera le chef et contre-ténor Damien Guillon. Merci à YouTube, Diego Aclopès, Watt Bougoursa, Laure Poissonnier, Marion Guillemet et Margot Muller, ainsi que Félix Levacher. La réponse à notre juste est Un jour de novembre, la pièce, très belle pièce pour guitare, que nous écoutions interprétée par Thibaut Covin, du compositeur Léo Brouwer, compositeur cubain.
À réécouter sur francemusique.fr.